Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
On en parle. On en parle. C'est le sujet de la semaine par l'équipe de Frandroid.
Bonjour tout le monde. Ici, ça va être la matinale du vendredi avant de partir en week-end. Un week-end de 3 jours où Cassim va avoir besoin de se reposer. Et il ne va pas se reposer du tout. Donc tout va bien. Et oui, c'est aussi la matinale où je vais m'efforcer de ne pas bâiller et de ne pas... Oh là là, merci. C'est pas du tout parce que je sors à peine de la douche et que je suis en retard, hein, c'est tout va bien. Je suis en train de perdre mes moyens parce que je viens de voir qui vient de nous follow. mon Dieu, au secours. Bonjour. J'ai marché 4 heures hier après-midi, donc je suis éclaté. J'ai mal dormi, donc du coup, je vais faire mon possible pour ne pas bâiller pendant que je raconte un peu ce qui s'est passé dans l'actualité tech ces dernières heures. Jusqu'à depuis hier, puisqu'il y avait aussi une matinale. Je vous rappelle qu'on a une matinale sur Frandroid. On essaye de la faire du lundi au vendredi, entre 9h30 et 11h. 9h40, c'est presque 9h30, donc tout va bien. Et donc, on vous raconte un peu l'actualité tech de ces dernières 24 heures. Voilà, c'est un peu l'objectif, en attendant aussi d'autres émissions. Par exemple, maintenant, vous avez une émission, vous avez un nouveau rendez-vous le jeudi, en fin d'après-midi, sur le 17h. Ça s'appelle Unlock et on vous fait un point hebdo sur nos tests, nos dossiers, les voilà, dossiers chauds. Par exemple, hier, on a parlé de la fermeture de Utip. On a aussi parlé des derniers tests, ce genre de choses. 4 heures de marche, 4 jours pour s'en remettre. Tiens, bon, oui, ça ira. Mais en fait, je vais aussi... ça s'appelle Unlock, oui, c'est ça, tout à fait. Bonjour Zeni. Bonjour tout le monde. Bonjour Gotos, bonjour Lord Jubus, bonjour, installez-vous. Du coup, oui, donc voilà, une émission, on a une émission hebdo maintenant, on va tasser et on va tâcher aussi de tenir le jeudi en fin d'après-midi, faire un petit point hebdo sur la tech, les dossiers, les tests et compagnie. Quand on a des enquêtes, etc. Quand on a des enquêtes et tout à préparer, à présenter, on sera là. Voilà. C'est un peu l'actu. Et oui, et après, moi, je file en plus du coup ce week-end, donc j'ai pas vraiment 4 jours pour m'en remettre. Je pense pas beaucoup dormir dans les. Voilà. Mais ça va, on garde la force. En plus, je reviens de congé, donc j'ai plein d'énergie à revendre. Donc tout va bien. Et bonjour. Je crois qu'il y a une émote. Alors, je sais pas si. Je crois qu'il faut peut-être être abonné. Mais il y a une émote normalement, je crois. Voilà. bon, on n'est pas les meilleurs sur le emote game, peut-être, de Twitch. on essaye des trucs. Bref. On a plein de trucs dont on peut parler aujourd'hui. Alors, j'ai pas de montre connectée, mais figure-toi que... alors, c'était une promenade hier après-midi. Et à la promenade hier après-midi, j'avais aussi un collègue avec moi qui avait plusieurs montres connectées à ses poignets. Il comptait ses pas, etc. Parce qu'il teste des montres connectées. Voilà. Et du coup, c'est aussi l'occasion, quand on teste, c'est pratique de pouvoir tester. Par exemple, aussi, on peut prendre en photo des foules, par exemple, avec nos smartphones, si on teste des smartphones. On peut faire des... Par exemple, moi, j'aimerais bien faire un papier sur la fonctionnalité. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé dans le chat. La fonctionnalité pour se retrouver entre amis à l'aide de, par exemple, de Google Maps, le partage de position en direct. C'est un truc que je n'ai pas forcément trop l'habitude d'utiliser. Mais là, j'avoue que quand c'est pour se retrouver avec des amis dans une énorme foule, par exemple le jeudi après-midi à Paris, c'est vachement pratique en fait de pouvoir l'utiliser. Il y a plein de petits trucs comme ça que je trouve intéressant à suivre dans ce genre d'événement populaire. Il y a aussi qu'est-ce qu'on avait noté aussi, le fait que quand il y a vraiment beaucoup de monde, par exemple quand on se retrouve tous aux Invalides pour juste comme ça, voilà, on capte vachement moins bien. Enfin, le téléphone capte la 4G, mais il a pas Il capte la 4G, mais on n'arrive pas à avoir du débit, on n'arrive pas à être tout. Donc c'est la saturation du réseau 4G. Et c'est un des bénéfices normalement qui est censé permettre la 5G pour le coup, c'est le fait de pouvoir se connecter à plus d'appareils au même endroit. Donc souvent, quand les consortiums, par exemple Qualcomm ou d'autres acteurs de l'industrie nous parlent de la 5G, ils nous parlent par exemple de l'utilisation dans des sites commerciaux, dans des stades, pendant des concerts, ce genre de choses. Un article sur le mode bouclier de Twitch t'intéresserait beaucoup. Je crois qu'il y en a eu sur Numérama. Je ne sais pas, je pense que sur Frandroid, peut-être on mériterait d'en faire un aussi, effectivement. ce serait très pertinent. C'est très pratique le mode bouclier sur Twitch. Ça permet notamment d'effacer un chat. Par exemple, si vous avez vraiment un raid qui vous arrive dessus, vous êtes un petit streamer. Par exemple, quand vous êtes un petit streamer qui n'avait pas une grande équipe de modération, notamment si vous avez décidé de rémunérer vos modérateurs, mode bouclier, ça permet instantanément de calmer le chat. Par exemple, s'il y a une arrivée massive de gens qui veulent dire du mal dans le chat. Voilà, c'est ce que permet le mode bouclier. C'est très pratique. voilà. Mais je sais plus ce que je racontais. Oui, la 5G, du coup, voilà, la prochaine fois que je croise Qualcomm, je pense qu'à la place des centres commerciaux et des stades, je leur demanderai si pour des rassemblements populaires, ça peut être aussi pertinent de déployer la 5G. Je pense. Je vais m'amuser à leur poser la question. Voilà. Voilà. Mais du coup, on va se lancer dans l'actualité. Je vais juste faire tac, une dernière préparation et après on va se lancer. On va parler de Nvidia qui fait des bourdes. On va parler de Google Chrome, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de Sony qui ouin encore concernant leur achat d'Activision Blizzard. Et voilà. ça va être le programme du jour. Puis on parlera aussi de ce que vous voulez parler si vous avez des sujets, par exemple des peut-être quel smartphone choisir, ce genre de choses. Ça peut être l'occasion. Voilà. Je vais juste... Tac. Voilà. Est-ce que je peux faire du partage d'écran? Est-ce que le partage d'écran va marcher? Parce que j'ai mis à jour mes pilotes, j'ai mis à jour Windows, j'ai mis à jour OBS. Donc, il y a possibilité que j'ai tout cassé entre-temps. Et je n'ai pas testé avant le live. Donc, on va tester ça en direct. C'est parti. Ça marche. C'est bon, tout va bien. Tout marche. Ok, c'est parfait. C'est le bon écran. Comme quoi ici, on a des setups vraiment solides, voilà, qui fonctionnent du premier coup, évidemment. On va commencer par Nvidia. Hop, c'est moi qui écris cet article. C'est pratique de pouvoir commenter ses propres articles. Ça permet de connaître le sujet, en tout cas a priori, à peu près. Ça va être assez rapide. Qui va apparaître en bas. Il y a eu un petit bug de Chrome. C'est pas grave. Du coup, je peux même pas fermer la pop-up. Bravo Microsoft Edge. Donc on va parler de la GeForce RTX 4070 du fait que Nvidia va confirmer tout simplement l'existence de la carte graphique. Ça fait quelques semaines qu'il y avait des rumeurs sur cette carte graphique qu'on pense arriver bientôt. Donc Nvidia, ça fait quelques mois qu'ils ont lancé la 4090, la 4080 et la 4070 Ti, qui sont que des cartes graphiques pour un globalement très haut de gamme, qui coûtent bien 2000, 1000 et peut-être 800 euros, je crois, pour la 4070 Ti de mémoire. Donc... ils ont lancé leur nouvelle génération de cartes graphiques, ça coûte très très cher. Et maintenant, le but, ça va être de les décliner pour faire des produits de plus en plus accessibles. Et voilà, au lieu de coûter un rein et un bras, je vais passer en partage d'écran plus 7 pour voir au replay. Au lieu de coûter un rein et un bras, comme dit Lord Gibus, maintenant ça ne va coûter plus qu'un rein peut-être, on verra. Donc bref, il y a eu deux rumeurs autour de cette carte graphique, on ne savait pas si elle existait vraiment. Et là, tu as Nvidia qui annonce que Counter-Strike 2 va recevoir Nvidia Reflex, donc qui est une technologie qui permet de réduire la latence, c'est particulièrement important pour les jeux compétitifs. Je sais que dans le chat, il y a des spécialistes de Counter-Strike qui s'amusent avec les grenades fumigènes. Avec Nvidia Reflex, vous allez lancer des grenades encore plus vite. C'est la grande nouveauté de Counter-Strike 2. Donc il va y avoir Nvidia Reflex et donc Nvidia a publié ce magnifique graphe. Et sur ce magnifique graphe, on a la RTX 4070. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien à l'écran, c'est là. Si je zoome, est-ce que je peux zoomer? Ça a très mal zoomé. Là, ça zoome, voilà. Il y a la 4070. Donc, ils ont confirmé le nom. Malheureusement, c'est juste une info pour dire ça, parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus, évidemment. Ils n'ont pas non plus donné les caractéristiques détaillées. Mais en vrai, ça veut surtout dire que s'ils en parlent maintenant, comme ça, sans faire gaffe, ça va probablement dire qu'elle est sur le point d'être annoncée, qu'elle arrive très bientôt. Notamment, en plus, on a vu que... Il y a pas mal de rumeurs en fait qui en parlent depuis plusieurs semaines. Pour qu'il y ait autant de faisceaux, ça veut dire que très probablement elle arrive. Et puis c'est pas non plus très surprenant que Nvidia continue de décliner sa gamme de cartes graphiques. La bonne nouvelle, surtout pour les joueurs PC qui ont peut-être des vieilles cartes et qui attendent fermement de renouveler leur PC. Ça va peut-être être la bonne surprise, ou en tout cas le début des prix un peu plus doux, où on va peut-être payer moins de 1 000 € pour une carte graphique quand même, voilà, ce serait pas mal. Je rappelle que l'intérêt des GeForce 4000, c'est notamment, évidemment elles font tout mieux que les précédentes cartes graphiques, mais les deux grandes nouveautés, on va dire, c'est en particulier le DLSS 3, qui permet de générer des images désormais complètement. Je crois que c'est 8 pixels sur 10 qui sont générés par IA. Vous avez à la fois le côté DLSS2, donc c'est-à-dire vous prenez une petite image, vous l'agrandissez en 4K et vous avez l'essentiel de l'image qui a été calculé par IA. Ça permet de gagner énormément en performance. Et puis maintenant, avec le DLSS3, vous avez carrément des images intermédiaires qui sont entièrement générées par l'IA. Et ça permet notamment aux jeux qui sont bloqués par le processeur de gagner énormément en performance. Donc par exemple un Flight Simulator sur lequel même une 3090 n'arrivait pas à dépasser les 40 images par seconde, là vous allez pouvoir déplacer les 60 voire les 100 images par seconde sur les GeForce 4000 parce qu'on génère des images 100% par IA sans passer par le processeur et donc sans avoir ces limites là. Donc ça permet de grandement augmenter la fluidité. Ça permet, après la qualité d'image, on paye un petit prix, mais honnêtement, je pense que ça reste pas mal quand même. En tout cas, c'est à tester. Et c'est une des grosses nouveautés de cette génération. Sinon, après, vous avez plus de performance, plus de ray tracing, plus de tout ça, à consommation égale en plus. Donc ça, c'est toujours intéressant. La vraie nouveauté, c'est le DLSS 3 qui fait quand même des merveilles. D'ailleurs, ça va me permettre d'enchaîner. C'est pas une news dont j'avais prévu de parler, mais on peut en parler si je vais... Je pense que si je vais sur Nvidia, normalement, on a dû la taguer correctement. Voilà. Il y a eu une démonstration. Est-ce que je peux vous mettre la vidéo? Il va y avoir des pubs. Il n'y a pas de pub, tant mieux. Je vais couper le son parce que sinon j'ai très mal aux oreilles. Ils ont fait une démonstration du futur patch Overdrive Mode de Cyberpunk 2077 qui ajoute du pass tracing. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste des quelques reflets qui utilisent du ray tracing, là le pass tracing c'est carrément 100% du jeu qui est calculé vraiment de façon réaliste en termes de physique. Et c'est ultra, ultra, ultra gourmand. C'est un truc qui était réservé à Pixar jusqu'à il y a très peu de temps. Et c'est un truc que promet de faire Nvidia désormais en temps réel. Sauf que vous allez voir, est-ce qu'on peut avoir le comparo de performance, s'il vous plaît. Voilà. Vous allez voir que voilà, sans le DLSS, on est à 16-17 FPS sur une... je ne sais pas s'il le précise quelque part. C'est sur une 4090, donc une carte graphique à 2 000 €. On est à 17 images secondes. Et vous voyez qu'en activant le DLSS3, on passe direct à 130 images secondes. Et je vais me couper pour dire bonjour au Notekos. Salut, bonjour, bonjour, bonjour. Dis donc, que de monde dans ce chat ce matin, mon Dieu, je n'avais pas prévu ça. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, on est en train de parler de Nvidia. J'espère que c'était cool chez Naotech. Je ne sais pas de quoi vous avez parlé ce matin, mais bonjour à tout le monde, installez-vous. Je vais remettre la vidéo du début pour les gens qui viennent d'arriver, ça dure une minute. Et bonjour, bonjour. Du coup, oui, c'est une matinale, on parle des dernières actualités tech côté Frandroid. Là, j'étais en train de parler de Nvidia qui a confirmé par erreur la GeForce 4070, donc elle arrivera bientôt. Il y a eu pas mal de rumeurs autour de cette carte et là c'est Nvidia qui l'a confirmé en confirmant que Counter-Strike 2 allait avoir Nvidia Reflex. Et je parlais du fait qu'ils ont aussi fait une démo de Cyberpunk 2077 avec un nouveau patch qui booste bien les graphismes et crée une lumière ultra réaliste. Et je parlais de l'importance du DLSS3 puisque même sur une 4090, donc une graphique à 2000 balles, le jeu avec ce nouveau mode là, c'est Cyberpunk 2077, il tourne à au mieux 30 images par seconde en 4K. Et là avec le DLSS on passe à 100 images par seconde. Alors évidemment c'est une vidéo de Nvidia, donc c'est une pub, donc il faudra attendre de tester tout ça. Mais c'est vrai quand même, le DLSS c'est quand même très impressionnant. Et il montre une nouvelle utilité du DLSS qui est de... Enfin, on savait que quand on active le ray tracing, c'est quand même mieux de l'activer pour gagner en performance. Là, ça va carrément être obligatoire. Quand le jeu il tourne à 15 FPS, oui, clairement, il va falloir activer le DLSS si tu veux jouer dans des conditions correctes. 15 FPS, même pour la Switch, ce serait un peu horrible. On va devoir activer l'option. Je vous ai résumé l'actualité en quelques secondes. Je tourne à 95, 100 FPS tout à fond en 4K, DLSS 3. Tu parles sur Cyberpunk 2077. Là, je parle. Après, c'est un nouveau mode qui n'existe pas encore dans le jeu. Le mode Overdrive, c'est un patch qui devrait arriver. Ça fait des mois qu'ils l'ont annoncé. Parce qu'ils l'ont annoncé en même temps que les GeForce 4000, c'était en septembre, je crois. Donc, il serait temps qu'il arrive, ce patch. Mais c'est un nouveau. C'est un patch qui va activer le path tracing, donc ça va être beaucoup plus complet que le ray tracing en termes de réalisme physique. Voilà pour Nvidia. On verra quand ils annonceront officiellement les choses, qu'on puisse vraiment les tester. Après, on va rester un peu dans le domaine des cartes graphiques avant de passer à un autre sujet. On va parler de Google Chrome. On espère que ça arrivera en même temps que le gros DLC qui devrait arriver. Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. J'espère même que ça va arriver avant. Je sais pas le gros DLC si on a une date de sortie de celui de Cyberpunk, mais j'espère même que le patch il arrivera là bientôt, quoi, parce que ça fait vraiment plusieurs mois qu'ils l'ont annoncé. Il serait temps qu'ils le sortent, quoi. Enfin, moi je sais que j'ai des regrets, c'est un peu fort, mais d'avoir parlé un peu de ce patch-là et de ce mode-là quand ils ont annoncé les GeForce 4000, c'est bien sympathique, mais du coup, on pensait pas que ça mettrait des mois à arriver, quoi. Donc bon, on verra. À suivre. Affaire à suivre, comme disent tous les journalistes. La prochaine news, c'est Google Chrome qui s'est mis à jour, et c'est une mise à jour qui est assez importante, mais qui est assez technique, mais qui va changer quand même pas mal de choses. C'est l'arrivée de la technologie, je fais un petit zoom, c'est arrivé, de la technologie Web GPU. Donc en fait, c'est tout simplement, pour ceux peut-être qui connaissent un petit peu la technique, vous connaissez peut-être DirectX, vous connaissez peut-être, je réponds à ta question juste après, vous connaissez peut-être DirectX, vous connaissez peut-être Vulkan, OpenGL, Metal, tout ça c'est des API graphiques, c'est en gros les développeurs de jeux, les développeurs de tout ce qui utilise la 3D, ce qu'ils utilisent pour ne pas savoir si... comme ça, ils n'ont pas besoin de programmer spécifiquement pour leur jeu, pour Nvidia, pour AMD, pour Intel, pour whatever. Ils peuvent juste utiliser DirectX, et ça va être, ça va faire une certaine couche d'abstraction, ça va être plus simple pour programmer des jeux, ça va être plus simple pour développer des jeux, et les jeux seront quand même assez performants. C'est le rôle de ces API-là, c'est une couche logicielle qui existe entre le jeu vidéo et ou le moteur 3D et votre carte graphique, pour la faire simple. Sauf que donc DirectX, c'est propre à Windows, Metal, c'est propre à Apple. Et Vulkan, c'est le côté open source, et donc ça va être ce qui va être utilisé surtout sur Linux ou sur toutes les autres plateformes, parce que certains jeux vont l'utiliser. Je crois que Doom, par exemple, l'utilise de façon assez connue, Red Dead Redemption aussi. Donc Vulkan, ça remplace OpenGL, c'est le successeur, c'est le même consortium derrière. OpenGL a été remplacé par Vulkan, mais c'est la même chose. Et là donc maintenant on a WebGPU, et comme son nom l'indique, que WebGPU c'est la technologie mais pour les navigateurs. Donc par exemple demain, si un développeur est courageux, il va pouvoir développer un vrai jeu 3D type Red Dead Redemption que vous allez installer sur votre PC. Et vous allez pouvoir le lancer depuis Chrome, et il va tourner à travers Chrome en WebGPU. Évidemment, l'intérêt n'est pas directement celui-là, même si sur Chrome OS, on imagine que ça pourra aller trouver un intérêt. Ça va être de développer des fonctionnalités qui utilisent la puissance du GPU. Et je vous le donne en mille, on va parler d'intelligence artificielle. On nous promet notamment des temps, j'ai plus le tout où il est mentionné, mais en gros dans le blog post de Google, ils annoncent une division par 3 du temps d'inférence pour les modèles de machine learning, donc des performances multipliées par 3 sur des exercices d'IA. Ça va permettre en fait plus simplement de créer des services, des logiciels qui utilisent de l'intelligence artificielle qui tourneraient localement. C'est-à-dire que quand vous utilisez Bing ou ChatGPT, ce genre d'outils, pour l'instant, ça tourne sur des serveurs distants. Il y a tout un pan de l'IA qui est en train de se développer où le but, c'est par exemple le cas de Stable Diffusion, qui est un concurrent de Midjourney. Ça va permettre de tourner directement sur votre machine en local, et donc vous allez pouvoir lui donner un peu les paramètres que vous voulez, les conditions que vous voulez, et faire tourner tout ça en local. Ça implique aussi un certain nombre de dangers, puisque jusqu'à présent, quand c'est ChatGPT, Midjourney par exemple, les développeurs derrière, c'est une boîte qu'on peut trouver. Et ils sont capables d'intégrer des outils de modération, par exemple ChatGPT et Bing. Vous ne pouvez pas trop leur demander, en premier plan, vous pouvez pas trop leur demander des choses politiques. Après, il y a des moyens de détourner les règles de modération, mais il y a un certain nombre d'outils de modération pour l'empêcher de sortir des trucs et ce genre de choses. Vraiment l'IA arrive à devenir assez populaire en termes de ressources, assez légère en termes de ressources pour tourner sur pas mal de machines. On avait notamment fait un article sur des progrès du côté de Facebook, de Meta, avec leur modèle Llama. Il y avait un développeur qui avait réussi à le faire tourner sur un PC et en gros c'est l'équivalent de ChatGPT qui tournait sur une machine classique. Donc on arrive vraiment à l'idée de peut-être faire tourner de l'IA sur n'importe quel PC et donc d'être capable de générer des spams, le principal outil de modération étant des salariés sous-payés. Oui, c'est vrai, tu fais bien de le rappeler, ça avait été aussi révélé pour ChatGPT qu'il y avait pas mal, il y avait toute une problématique au niveau de la modération de ChatGPT qui utilisait, alors j'ai plus les détails en tête, mais en tout cas qui était sous-traité dans des pays où le salaire était très très faible. Et c'est toujours pareil, en plus c'est de la modération. Après, j'ai envie de te dire, Zeni, au moins ils étaient payés, eux, contrairement à d'autres équipes de modération. Mais oui, blague à part, oui, ils étaient vraiment payés un salaire de misère. Et surtout, c'est du travail de modération, c'est comme celui de YouTube ou de Meta, on leur fait voir des trucs assez horribles au quotidien, donc il y a tout un impact psychologique sur la chose. Bref. Et là, il y a un autre danger au-delà de ça, du coup, il y a un autre danger, c'est le fait de pouvoir faire tourner l'IA facilement sur un PC. La création très facile de génération. Les modérateurs du chat Fandroid sont payés techniquement oui, parce que je sais pas si on a des modérateurs externes à la boîte, donc du coup oui et non, on n'est pas payé spécifiquement pour ça, mais on est payé mais voilà, c'est dans nos... mais je sais plus si on a des modérateurs externes, je j'ai un doute. Mais ouais, donc j'ai terminé ma phrase sur le fait que donc ça fait des fake news, c'est dans la suite de post. Ça peut permettre de faire des fake news plus facilement. Par exemple, même Midjourney, maintenant, je crois, sur les dernières versions, bloque le fait de, par exemple, créer des fausses images avec Emmanuel Macron, même si je crois qu'il y a moyen de le détourner. On peut imaginer beaucoup plus facilement créer des fausses images sans modération. Et donc WebGPU, la nouveauté de Chrome, là, ça va être de permettre de vachement plus facilement créer des services web qui utilisent de l'IA et qui vont pouvoir puiser dans la puissance de votre PC local. On parle aussi d'une très grande augmentation des performances JavaScript. Et alors moi, j'ai aussi l'idée que que Mark Zuckerberg va bien s'en servir pour nous reparler de métavers, puisque si on parle de pouvoir utiliser la carte graphique de votre PC à travers un navigateur, ça peut permettre d'afficher un environnement 3D, et qui dit environnement 3D veut dire aussi métavers, bien sûr, voilà, le merveilleux mot magique. Est-ce que tu peux lui demander une image de macaron en lui demandant, en disant de retirer le second? Je sais pas comment les gens font, mais ils arrivent encore, je crois, à créer des avatars Macron réalistes dans le métavers. Miam miam. What the heck, quel brillant avenir. Incroyable. On verra bien tout ce que tout ça deviendra. Mais du coup, il fallait absolument faire un article, je trouve, sur cette mise à jour de Google Chrome, parce que derrière un petit changement qui paraît très technique et très très technique et donc pas forcément très accessible pour le grand public, de savoir qu'une mise à jour de Chrome ajoute WebGPU, ça va peut-être être les fondations pour des changements assez importants dans les mois et années à venir. Après, il y a peut-être aussi, du coup, en premier lieu, le jeu vidéo, évidemment, puisque ça va permettre d'accéder à la carte graphique. Mais j'avoue que j'ai un peu plus de mal à imaginer vraiment pourquoi on ferait tourner un jeu vidéo à travers Google Chrome plutôt que juste le faire tourner sur le PC directement en double-cliquant dessus, sans passer par le navigateur. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent de plus en plus leur navigateur et pas autre chose, donc tout leur service web, même quand ils vont, par exemple, sur Spotify, ils n'ont pas l'application Spotify, ils ont juste le site web Spotify, etc. Je vais prendre un peu les questions du chat. On peut pas faire du Minecraft web déjà? Oui, il y avait déjà des solutions, notamment avec WebGL, y avait déjà des solutions pour faire tourner localement du jeu vidéo à travers un navigateur. Là, ça va vraiment beaucoup plus loin. Et c'est un travail qui a pris, je ne l'ai pas reprécisé, mais c'est un truc qui est en développement depuis 5 ans. Hein. C'est la première fois que ça arrive dans une version stable de Google Chrome, mais ça fait 6 ans même. Voilà, ils ont mis plus de 6 ans à développer vraiment les outils. Et pour reprendre la question de Zeni, il y a effectivement Opera GX, ça ne m'étonnerait pas qu'il l'intègre. C'est basé sur... alors déjà, oui, Google va l'intégrer, je pense, à Chromium, et donc tous les navigateurs qui sont basés sur Chromium, dont Microsoft Edge, vont pouvoir l'intégrer. Au-delà de ça, c'est un standard du W3C, donc c'est un standard web, web GPU. Donc du coup, il va y avoir... Firefox va travailler aussi à l'intégration. Safari travaille aussi, je crois, à l'intégration. Donc normalement, tous les navigateurs vont le proposer, ce qui va permettre aux développeurs de créer plus facilement des expériences en utilisant cette API-là et en se disant, bon, au moins, c'est compatible avec tout le monde. Quoi. Cloud via iPad, c'est un peu différent. Je ne sais pas si on se moque de moi quand je dis W3C. C'est le... Enfin, pour ceux qui ne se connaissent pas, en tout cas, le W3C, c'est... le consortium qui définit les standards du web, donc le CSS, c'est le W3C qui le définit, le HTML, c'est le W3C qui le définit, tout ça, quoi. Donc la plupart des technologies qui sont utilisées sur le web ont été mis autour de la table par le W3C, et en fait, c'est un consortium dans lequel Google, Microsoft, Apple, Mozilla, tout ça, se mettent autour de la table pour être d'accord pour que le web reste le web et que tout fonctionne partout. Quoi. Mais du coup, oui, donc c'est une évolution majeure d'un truc qui existait un peu déjà, qui était effectivement le WebGL. Mais là, ça devrait aller plus loin, notamment dans ce qui est de l'utilisation du GPU pour autre chose que les graphismes, je pense, notamment l'IA, ou le JavaScript. Enfin, on va pouvoir utiliser vraiment la puissance du GPU pour plein de trucs. Quoi. Ça compte aussi pour le référencement naturel, le fait d'être au standard W3C, c'est possible pour un site web. C'est possible. Du coup, cloud via iPad, c'est un peu différent, je pense, du coup, puisque c'est juste du streaming. Mais après, on peut imaginer que le streaming sera facilité par l'utilisation aussi du GPU. Donc pourquoi pas. C'est pour ça que j'avais mis cloud dans le titre, d'ailleurs, du papier. Ça va aider les navigateurs à tirer vraiment pleinement partie de la puissance de votre appareil. Voilà, pour le faire plus rapidement. Et donc je voulais prendre la question, désolé, j'ai mis du temps du coup à revenir à ta question. Bobinette le 24e, j'adore ce nom. Et en plus qui nous venait de Nowtech. Je profite du raid pour poser une petite question. Fandroid n'est plus lié à Numérama aujourd'hui. Les liens entre les deux sites semblent avoir disparu depuis quelques temps. On fait partie du même groupe, on est à un étage d'écart, on se voit tous les jours, mais on est deux rédactions complètement séparées. Donc Numérama fait ses papiers, Fandroid fait ses papiers. Mais on partage aussi des ressources, notamment, pour prendre un exemple assez récent, sur Fandroid, on a des fiches produits, donc n'importe quel smartphone, n'importe quel graphique, n'importe quel PC, n'importe quelle console, voilà, tous les produits, n'importe quel casque, n'importe quelle montre connectée, trottinette, voiture, je ne sais pas, fiche produit, ce qui nous permet, quand on écrit un test, quand on fait, d'avoir le comparatif de prix, ce genre de choses, enfin, c'est tout un truc. Puis ça permet juste d'avoir une sorte de base de données aussi qui est très pratique pour pouvoir faire des comparatifs, pour pouvoir faire plein de choses. Et bien désormais, Numérama, ils ont accès à. C'est une base de données qui existait plutôt côté Fandroid à la base, et Numérama y a accès désormais, donc c'est une base de données commune. Et voilà. Donc voilà. On a quand même des points communs et on fait partie du même groupe. On fait aussi partie du même groupe que Mademoiselle pour info. Voilà. Le site, le magazine en ligne Mademoiselle. Et pareil, c'est encore une rédaction indépendante. Mais après, du coup, on peut partager par exemple le studio vidéo, le studio Twitch, c'est un peu les mêmes. On partage un certain nombre de trucs. Et puis, bon, voilà. Au-delà de ça, on est des collègues. Donc, forcément, après, il y a plus y a des sujets. Alors, pour le coup, de Numérama, souvent, on nous parle de la proximité avec Numérama, puisque Numérama parle de tech. Et donc, forcément, dans un cycle tech, il y a forcément la question qui se pose. Comme pour Société Générale et Crédit du Nord, ils gardent leur devanture, mais c'est le même groupe SG. Tout à fait, c'est un peu la même idée. On peut choisir, on choisit nous-mêmes nos sujets. Lundi, après on s'entraide quand même, faut pas déconner. Lundi, par exemple, j'ai sorti le papier sur Utip. Sur la fermeture de Utip. Et avant de le publier la première fois, j'ai évidemment prévenu nos collègues de Numérama qui ont pu aussi écrire tout en nous citant leur propre article et avoir un petit peu d'avance sur les autres. Voilà. Comment vous faites pour ne pas traiter les mêmes sujets? Vous faites de la synchro entre les rédactions? Non, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes lignes édito, tout simplement. On peut traiter les mêmes sujets, des fois. On les traite de façon différente. Et juste, en fait, c'est justement en ne se coordonnant pas qu'on est différent, en fait. Parce que du coup, on a une autre façon de traiter. Je dirais que Numérama est beaucoup plus axé sur l'impact de la tech sur la société et un rapport beaucoup plus science et société et culture à la tech. Notamment, ils vont faire, par exemple, pour prendre un exemple très concret, ils vont faire des critiques de jeux vidéo, alors que nous, on va plutôt être du côté du conseil et du côté vraiment d'expliquer comment fonctionnent les technologies, d'expliquer comment fonctionnent les produits, de les tester et de vraiment essayer d'aiguiller les gens pour faire des achats de meilleure qualité, et notre but, c'est d'aider les gens à acheter le bon produit et qu'ils le gardent le plus longtemps possible et qu'ils en soient satisfaits, quoi. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée de ce qu'on essaye de faire. Je n'irai pas jusqu'à dire que on a une vocation écolo, parce qu'on recommande quand même des produits à acheter, mais on essaye d'avoir une certaine démarche en termes de la façon dont des produits qu'on recommande, justement. Et l'idée, c'est d'amener les gens à moins acheter peut-être n'importe quoi, ou en tout cas moins acheter des produits qui pourraient peut-être être périmés plus rapidement, et essayer de passer sur des produits de meilleure qualité autant que possible. Voilà, c'est un peu l'idée. Et oui, coucou Clément, on a toute une équipe dédiée chez Fandroid qui s'occupe de tous nos guides, justement, pour aider les gens à mieux acheter. D'ailleurs, voilà, quels sont les meilleurs smartphones gaming en 2023, et ne pas hésiter. On essaye à chaque fois de ne pas hésiter à dire ce produit, il est mauvais. Ce produit, nous, on ne le recommande pas, mais si vous êtes dans ce cas particulier, peut-être qu'il est pour vous. Ce genre de choses. Pour rester dans le sujet, alors je ne suis pas rédac chef de Fandroid, mais je fais faire de mon mieux pour répondre aux questions. Non, t'inquiète. Alors les live Twitch, on aime beaucoup répondre aux questions des gens, donc il y a pas de souci de Bobinette. Tu n'as rien hijack. On est là pour ça aussi. C'est un peu le rôle de Twitch aussi, d'avoir un peu ce contact, de pouvoir parler aux gens directement. Donc c'est très cool. Au contraire, tu sais, ça fait de l'interaction et de l'engagement. C'est très important, l'engagement. Voilà. J'essaie de trouver les mots. C'est important. Ça va remplir nos KPI et donc nous assurer une meilleure croissance et des jours meilleurs. Voilà. Je sais absolument pas parler en jargon. En jargon startup, c'est horrible. Du coup, oui, alors pour rester dans le même sujet, vous ne devriez pas trouver un autre nom, car vous avez évolué depuis le début de Fandroid. Tu écris Fandroid avec un A majuscule, mais nous sommes Fandroid avec un A minuscule désormais. Petit changement, grand changement. Oui, évidemment qu'on s'est élargi depuis l'époque et qu'on nous assigne encore une spécialité dans le smartphone, ce qu'on a toujours, hein, bien sûr. On teste tous les smartphones, c'est notre cœur historique. On continue de faire ça, de faire très attention à respecter ça. Mais oui, maintenant on parle de beaucoup d'autres choses que des smartphones. je sais absolument pas mentir. Je suis bon sur Among Us, mais on voit pas ma tête, donc c'est plus facile. Mais j'arrive à jouer à Among Us. Mais disons que sur le rebranding, justement, c'est pas à l'ordre du jour. Parce qu'on y a beaucoup réfléchi, notamment quand on a vraiment élargi la ligne édito et qu'on a refondu le site, qu'on a abandonné le vert pomme d'Android, justement, et qu'on a vraiment pris à bras le corps le fait de parler de gaming, de parler de PC, etc., et pas que de smartphone. On a beaucoup réfléchi au fait de changer de nom, et je pense qu'il y a une réponse officielle comme quoi les gens se sont habitués à la marque Fandroid. Il y a une réponse non officielle comme quoi changer de nom, ce serait aussi se faire du mal en termes de référencement sur Google. Ça aurait été possible, hein. Y a déjà des sites qui ont fait ça, ce serait pas non plus complètement impossible, mais on a plutôt choisi de faire nôtre la marque Fandroid, et de en gros de de dire bah non maintenant Fandroid, on va d'essayer de pousser pour que Fandroid soit connu au-delà du smartphone et de faire rentrer que on parle aussi d'autres choses et juste que d'associer le nom notre nom historique avec nos nouveaux domaines et les gens connaissaient déjà, alors ils peuvent dire FR Android des fois et continuer de le dire, mais les gens connaissent ce site, ils connaissent le nom et il y en a qui sont quand même contents de, enfin qui associent une certaine qualité en termes de thèse, de guide, etc. Salut, moi j'aime beaucoup comment vous traitez l'actualité maintenant, c'est top. Bah, merci beaucoup, on fait vraiment de notre mieux et puis on n'hésite pas, quand on a des retours, on fait de notre mieux, quoi, vraiment, pour traiter correctement, pas prendre n'importe quelle rumeur par exemple, bien filtrer, toujours essayer de réfléchir à comment ça intéresse nos lecteurs ou nos lectrices. Essayer d'expliquer les choses pour expliquer pourquoi par exemple quand Google ils annoncent que WebGPU arrive dans Google Chrome, bah pourquoi c'est important et pas juste dire bah c'est WebGPU donc super, y a que les nerds qui comprendront. C'est expliquer ce que c'est que WebGPU, expliquer pourquoi c'est important pour les gens quoi et qu'est-ce que ça va changer concrètement quoi. C'est un peu le but, voilà. En tout cas, c'est le but que moi je me fixe quand j'écris les articles. Mais merci beaucoup pour les commentaires dans le chat, ça fait plaisir. Il faudra que je le transmette à l'équipe. Est-ce qu'on utilise ChatGPT chez nous ? Moi, je l'utilise pour rigoler de mon côté. Je l'utilise pour des tests. Après, on l'utilise pour tester des choses, etc. Mais on l'utilise pas. On l'utilise pas pour écrire des articles, par exemple. Si c'est la question, on l'utilise pas pour ce genre de choses pour l'instant. Ça m'est déjà arrivé de lui demander de me suggérer des titres, mais en général, en fait, je préfère les titres que moi je trouve. je suis pas très il n'est pas forcément très doué encore parce qu'en plus il y a un truc en français d'essayer de trouver des jeux de mots, trouver des trucs un peu péchus, etc. Et il est très 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 scolaire quand il écrit du texte. ChatGPT notamment en français, il est vraiment horriblement scolaire. C'est vraiment vous lui demandez de je sais pas d'écrire le dernier Galaxy S23. Il va vous dire, alors tout d'abord, le Galaxy S23 est un smartphone de Samsung qui tourne sous Android. Ensuite, le smartphone Samsung utilise un écran OLED. En conclusion, je dirais que le smartphone Samsung... Bref, c'est vraiment très scolaire, c'est les paragraphes, c'est petit 1, grand 1, petit 1, grand 2, etc. Quoi. Enfin, c'est très 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 scolaire. Est-ce qu'il prend une voix rigolote comme ça aussi ? Non, c'est que moi qui prends les voix rigolotes quand je me moque des choses. Voilà. On n'a pas encore remplacé. D'ailleurs, je pense que si on demande d'imiter ma voix avec une IA, je pense qu'elle se plante. Elle va réussir à imiter ma voix, mais je suis pas sûr qu'elle arrive à imiter le ton et mes blagues intempestives. Voilà. Qu'est-ce que j'avais dit de quoi on parlerait ? Ouais, c'est bien, j'ai pas trop vendu la mèche dans le titre du live, donc c'est pas grave si je digresse. Le futur du gaming sur Chrome, l'arrivée de. Alors, c'est WebGPU, je prononcerai mal du coup, mais le futur du gaming sur Chrome, l'arrivée de WebGPU, oui, c'est très scolaire. Enfin, c'est très scolaire, c'est vraiment. C'est vraiment nul comme titre. C'est factuel, hein, ça va, mais c'est pas ouf, ça donne pas vraiment envie de savoir ce qu'il en est. Alors on va parler, j'avais promis que je parlerais de Sony et je voulais parler d'IA, je voulais parler de où est passé notre papier, je voulais parler de l'arrivée de l'IA chez Microsoft un peu plus. Je ne vais pas le retrouver, mais je peux la faire, c'est pas grave, je vais la faire sans l'article. Il y a l'IA qui arrive dans OneNote et l'IA qui arrive dans SwiftKey, le clavier pour Android et pour iOS, qui a été racheté par Microsoft il y a longtemps. Le clavier SwiftKey, il appartient à Microsoft, et Microsoft, en ce moment, ils mettent de l'IA partout, notamment Bing Chat, et donc maintenant, il est intégré directement, il va directement être intégré dans le clavier SwiftKey. J'avoue que j'ai même pas regardé à quoi ça ressemblait, mais voilà, donc ça permet d'accéder au chatbot, mais aussi de réécrire du texte selon une tonalité choisie. Donc c'est un peu ça qu'on attend. Je ne sais pas si c'est ça qu'on attend, mais en tout cas, c'est une fonctionnalité qui me semble intelligente quand tu te dis, plutôt que juste de dire on va mettre ChatGPT dans un clavier, ce qui est un peu nul. Là, ils vont carrément te permettre de réécrire un texte, par exemple, tu as écrit un SMS, tu as écrit un tweet ou quoi, ils vont pouvoir te le rephraser pour qu'il soit plus formel, moins formel, ce genre de choses. Et oui, voilà, SwiftKey à la base c'était indépendant, c'était un petit clavier indépendant. virtuelle qui avait un super algorithme très puissant en termes de prédiction des mots, etc. Moi, je me rappelle à la fac, à un moment où SwiftKey était tellement puissant que en fait, j'écrivais un mot, il arrivait à m'écrire le reste du SMS. Voilà, c'était il y a longtemps.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
La fac pour moi, enfin c'était il y a un petit moment maintenant. Alors déjà, si SwiftKey pouvait apprendre à ne pas remplacer la par le aléatoirement, ce serait bien avant de taper dans l'IA. Oui, bah oui, on est d'accord que sur ce genre de point, le clavier de l'iPhone fait un peu pareil, c'est assez pénible. C'est encore pire, le clavier de l'iPhone, j'écris là, il me remplace là par là avec un A accent aigu. À un endroit où c'est pas du tout prévu, enfin c'est pas du tout le c'est pas du tout un accent aigu, c'est un accent grave, mais bref, le A accent il me le remplace sans, ou alors le ou et le ou par exemple, pareil, il me le remplace pas du tout comme il faut, et je suis obligé de retourner corriger moi-même le correcteur automatique, ce qui est toujours très pénible, notamment quand tu corriges le correcteur automatique, tu refais espace et ils te recorrigent derrière, alors que tu es revenu sur ton texte pour spécifiquement virer leur correction. Alors honnêtement, j'ai peur pour la confidentialité, car le calcul de l'IA sera déporté pour reformuler tout à fait. Mais après, SwiftKey, la confidentialité, ça fait longtemps que c'est plus trop une préoccupation pour eux, je dois avouer que... Enfin, à l'époque où je l'utilisais, en tout cas, pour l'utiliser, il fallait accepter pas mal de conditions, et notamment, c'est toujours anonymisé, ils essaient de toujours faire en sorte que ce soit pas totalement utilisé, mais oui, le texte que tu envoyais, il était utilisé pour améliorer l'algo. À plus, Zeni. À plus dans le bus. Et merci d'être passé. Il nous a demandé de ne pas utiliser GPT avec des données sensibles, car il y a un doute sur la destination de la demande. On attend d'entendre parler. Il nous a été demandé, c'est qui a demandé à qui, en fait, dans la phrase. Mais oui, clairement, il y a l'utilisation de l'IA, ça part un peu dans tous les sens, et il y a des soucis sur la confidentialité. Si vous travaillez sur des données sensibles, théoriquement, il vaut mieux éviter d'utiliser ChatGPT et ce genre d'outils. Hein. Tous les calculs se font sur des services déportés. D'ailleurs, il y a eu des réflexions sur l'interdiction aussi d'utilisation. Je connecte ça un peu à l'utilisation, par exemple, à l'interdiction qu'il y a eu de l'utilisation de TikTok par nos députés, je crois. J'ai oublié, c'était pendant mes congés, mais en tout cas, et à l'Union européenne, de faire attention à ce genre d'application, de l'impact sur la vie privée et des données sensibles. Le truc que j'aime beaucoup de SwiftKey, c'est quand on fait un slide de droite à gauche sur le clavier, on peut le régler pour qu'il supprime un mot. Ouais, c'est pratique, c'est sûr. Chez Orange, on nous a aussi demandé d'arrêter ChatGPT. Ouais, mais non, mais ça m'étonne pas trop. En tout cas, de prendre un peu de recul, d'attendre que je pense que les services informatiques, en plus, ils étaient un peu dépassés par le fait que les gens prennent en main le produit avant, sans autorisation, enfin directement, voilà, se l'approprient et l'utilisent de plus en plus dans leur travail. Ça m'étonne pas qu'il y ait des services informatiques qui demandent aux gens d'attendre un petit peu, de moins de tester, d'avoir quelque chose de plus carré. En plus, ChatGPT par exemple, c'est une bêta publique, mais elle a encore pas mal de défauts, et enfin c'est une bêta quoi, donc elle est faite pour ne pas être fiable quoi, on va dire. Après, chez nous, on nous demande aussi de ne pas utiliser la traduction automatique de Microsoft, car le message est transféré pour la traduction. Oui, pareil, ça m'étonne pas trop, c'est un peu pénible, mais bon. Pour répondre, par contre, j'ai raté une question tout à l'heure sur le fait sur OneNote. OneNote, c'est plus complet que Google Keep. Google Keep, c'est vraiment un outil de notes rapides, de post-it, de liste de courses, ce genre de choses. OneNote, ça a une approche beaucoup plus complète. À la base, OneNote, c'est un logiciel de bureau conçu pour les étudiants, pour que tu puisses prendre en note tous tes cours de toutes tes matières. Donc, il y a tout un système de tri, de volets, etc. Et c'est très très complet, ça existe sur mobile, sur tablette, sur PC, et à chaque fois l'interface est adaptée à ce que tu souhaites faire, mais c'est un outil ultra complet. Tu peux faire des notes manuscrites si tu as un produit qui utilise un stylet, tu peux enregistrer du vocal, tu peux faire pas de la traduction, mais du transcript, de l'audio vers l'écrit. Il a un moteur de recherche qui est assez puissant, parce qu'il est capable de chercher à la fois dans les notes écrites au clavier et dans les notes manuscrites de façon transparente. Voilà, c'est assez puissant. C'est vraiment assez puissant, OneNote, et du coup assez lourd. Et comme il y a eu dans Word et PowerPoint, ils vont intégrer une sorte d'assistant par IA, par exemple, qui va être capable de, si tu as pris en note une réunion, de transformer les notes de ta réunion en to-do list, par exemple, pour ta semaine, ce genre de choses. C'est un peu l'idée. Mais du coup, Microsoft, ils continuent d'avancer à marche forcée sur l'IA, alors que du côté de Google, on attend toujours, comment il s'appelle, Bard, n'est-ce pas, qui est toujours réservé que à certains utilisateurs et que aux États-Unis, je crois, Google Bard. Donc, ce sera pas pour tout de suite. Et du coup, Microsoft prend une petite avance quand même. À la SNCF, on a eu un mail pour nous dire de ne pas utiliser ChatGPT. Je pense qu'il faudrait peut-être qu'on écrive un sujet là-dessus. Du coup, c'est intéressant d'avoir autant de boîtes qui disent attention. Il faudra peut-être qu'on écrive un sujet. De toute façon, on l'a déjà écrit et je l'ai complètement oublié. C'est aussi possible. Et donc, oui, je voulais parler de Sony qui continue de ouin-ouin. Je pense que ce sera la dernière actualité. C'est le dernier revirement dans le dossier Activision Blizzard. En plus, il y a eu du nouveau pendant mes congés.
Il peut plus en parler.
Ah. Ouais. J'avais prévenu que je risquais de bailler dans ce live. Voilà, c'est fait. Petit coup de fatigue. J'avais prévenu en début de live. Ne partager ni ne télécharger aucune information de l'entreprise sur ChatGPT, documentation, code informatique. Et oui. Après, comme je disais, alors ne vous fiez pas à ChatGPT pour votre vie personnelle. Comme je le disais, ChatGPT, c'est vraiment un outil en bêta. OpenAI l'a mis en bêta public. Et le mot bêta, il est important. C'est-à-dire que oui, ChatGPT n'est pas fiable. Pour commencer à prendre les devants, à comprendre ce que ça peut faire, à en mesurer un peu la puissance, etc., c'est intéressant de tester, c'est intéressant de lui faire des essais, comme on a fait. C'est super passionnant, et puis c'est une vraie révolution qui est en train de nous arriver dans la figure. Mais du coup, voilà, faut faire gaffe. Et à mon sens, moi, il faut faire très attention avec le fait que c'est une bêta et que c'est pas fiable pour l'instant. Il invente encore beaucoup. Voilà, il faut comprendre un peu son fonctionnement, comprendre ses limites. Et aussi, ça permet de s'entraîner pour le jour où ce sera plus en bêta. Et là, ce sera utilisable plus professionnellement, à mon avis, ou même plus personnellement. Mais pour l'instant, faire attention. Merci encore pour les follow. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit depuis tout à l'heure. Je vais lire un peu. Merci. En plus, vous êtes... Ouais, mais j'en ai raté plein. Alors, attendez. Merci à Weger. Merci à Pauline. Merci à Noël... Nolan Bibou, merci à Divelas, merci à Spirel, merci à Happy Smart 45, merci à Siam MSD, merci à Seb 69, merci à Iberzark, je fais des efforts, merci à The Gaby King, merci à Zaipak Agent, merci à Bobinette The 24, merci à The 24, merci à Blackbird Studio, à The Bass Hound, à Utsi, à Benobal, à Fabmix 974, à Sacha From Paris, et j'ai rattrapé. Ouf. Merci beaucoup pour les follow. Je rappelle que c'est une émission quotidienne du lundi au vendredi entre 9h30 et 11h. On vous parle de l'actualité tech. En plus, si vous venez de noter que c'est pratique parce qu'entre 9h30 et 11h, souvent, ils ont fini leur matinale. Donc voilà, on ne marche pas sur leur plate-bande. Et on essaie de passer un bon moment, on parle un peu avec le chat, on parle un peu de tout, on parle de PC, de smartphone, de mobilité, de gaming, ça dépend un peu de qui vient, puisque c'est pas toujours moi qui fais la matinale, c'est toute la rédaction, on se passe le relais, et c'est une émission entre 9h30 et 11h, et on essaie aussi de faire des émissions l'après-midi, notamment le jeudi, en fin d'après-midi, à 17h, vous avez un nouveau rendez-vous qui s'appelle Unlock sur Twitch, sur la chaîne Twitch de Fandroid. Hormis le fait que ce n'est pas fiable, on n'est pas certain de la pérennité de l'outil qui pourrait disparaître ou devenir payant vu que pour le moment OpenAI ne vit que d'injection d'argent. Oui, tout à fait, je suis un peu plus d'accord. Non mais c'est pour ça que je trouve que c'est un peu les entreprises qui se sont mis, encore une fois, expérimenter avec ChatGPT, ça me paraît assez normal de prendre le train en route, de bien faire gaffe, etc. et d'expérimenter avec, ça me semble normal, c'est une bêta, voilà, ok. C'est une révolution, donc il ne faut pas passer à côté quand tu es une entreprise, donc c'est normal d'expérimenter. En revanche, l'intégrer dans des outils, l'intégrer dans des services, dans la prod, quoi, finalement, dans quelque chose de très. Dans ta version stable de toi, de ton service à toi, par contre, ça me paraît un peu risqué, puisque justement, on parle d'une bêta, on parle d'une start-up, on parle d'un truc encore très récent. Et ça me semble être un peu mettre la charrue avant les bœufs. Moi, les IA me font peur pour le risque qu'on nous vole notre sécurité et notre vie privée. L'IA représente autant de risques, elle représente d'autres opportunités. Il va falloir être vigilant. Mais c'est classique. Wendigo, ton exemple, c'est classique. C'est quoi ? C'est l'œuf, c'est les œufs de chevaux, n'est-ce pas ? C'est l'exemple des œufs de chevaux. Sujet Activision Blizzard Sony. Il y a eu, en fait, pendant que j'étais en congé la semaine dernière, il y a eu le fait que le Royaume-Uni a décidé que le Royaume-Uni depuis plusieurs mois, ils étaient inquiets par deux choses dans le sujet du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Ils étaient inquiets par le fait que ça pourrait déstabiliser le marché des consoles entre Microsoft et Microsoft Xbox et PlayStation si jamais Microsoft prenait le contrôle de Activision Blizzard. Je rappelle que Activision Blizzard, c'est Call of Duty, c'est World of Warcraft, c'est Starcraft, c'est tout ça, c'est Crash Bandicoot, c'est quoi d'autre, je ne sais pas, c'est beaucoup de grosses licences, j'en oublie certainement, et c'est Candy Crush aussi d'ailleurs. Donc c'est beaucoup de grosses licences, c'est une énorme boîte, c'est le studio peut-être le plus important au monde puisque Call of Duty c'est la franchise la plus lucrative au monde de loin, chaque année. Et donc ils avaient peur pour le Royaume-Uni, ils avaient à la fois peur pour PlayStation et ils avaient peur pour le marché du cloud gaming qui est tout naissant. C'est aussi Diablo, tout à fait, dont on attend en plus Diablo 4 très bientôt, donc c'est tout à fait Diablo. Ils avaient peur pour PlayStation, ils avaient peur pour le cloud gaming. Et en fait, il y a une semaine, ils ont annoncé qu'ils écartaient le côté PlayStation de leurs inquiétudes du côté du Royaume-Uni et pour ne plus être seulement inquiétés que par le cloud gaming. Donc, est-ce que en permettant le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, on n'est pas en train de condamner le marché du cloud gaming à un futur monopole de la part de Microsoft, puisqu'ils ont déjà de l'avance avec Xbox Cloud Gaming sur leur concurrent direct. Microsoft essaye de convaincre les autorités qu'il n'y a pas de risque, et notamment en passant des contrats pour garantir que les jeux Activision Blizzard et les jeux Xbox d'ailleurs seront proposés pendant au moins 10 ans sur toutes les plateformes concurrentes, notamment Nvidia GeForce Now. Normalement, Nvidia GeForce Now devrait très bientôt avoir le droit aux jeux Bethesda, aux jeux Xbox, aux jeux Activision Blizzard. Ça, pour le dernier volet, c'est seulement si le rachat va jusqu'au bout, évidemment. On devrait pouvoir, au moins dans un premier temps, avoir le droit à... Ça, c'est sûr, le contrat a été signé. Donc, dans un premier temps, vous allez au moins retrouver des jeux comme Doom Eternal, Wolfenstein, ça c'est pour Bethesda, ou Skyrim, ou des jeux comme Sea of Thieves, Gears of War, Halo, ça c'est pour Microsoft, sur GeForce Now, sur le service concurrent de Xbox Cloud Gaming, donc ça c'est sûr. Nintendo a aussi récupéré Call of Duty, mais sur ce volet-là, la signature avait, sur les jeux Activision, c'est évidemment seulement si... Au revoir Sana et bonne journée, bon week-end. Le volet sur les jeux Activision Blizzard, c'est évidemment seulement si Microsoft arrive à racheter les studios au bout. Si le rachat se fait complètement bloquer, que Microsoft abandonne le rachat, tout ce qui a été signé de « on apportera Call of Duty sur Nintendo et compagnie » devient caduc. Et donc Call of Duty n'arrivera pas sur la Switch par exemple, n'arrivera pas sur les consoles Nintendo. J'attends Forza Horizon 5 sur GeForce Now pour jouer avec la 4080 sur ma télé OLED. GeForce Now étant un service de cloud gaming beaucoup plus performant en termes de qualité d'image, de latence, mais aussi un peu plus cher que Xbox Cloud Gaming, c'est super intéressant quoi. Et ne serait-ce que le fait que je rappelle que sur Xbox Cloud Gaming pour le moment on est encore limité à l'utilisation de la manette. Donc par exemple, quand on veut jouer à Doom Eternal sur Xbox Cloud Gaming, on est obligé d'y jouer à la manette. C'est un FPS qu'on est obligé de jouer à la manette, alors qu'il a été conçu avant tout, en particulier Doom, pour être joué au clavier souris. Si les gens veulent jouer à la manette, très bien, mais juste moi, j'ai envie d'y jouer au clavier souris. Et donc ça, pour l'instant, ce n'est pas possible chez Xbox, alors que c'est complètement possible chez GeForce. Donc du coup, j'ai hâte de voir ça. A contrario, peut-on voir un jour les licences de Nintendo sur Xbox ou PlayStation? Pas du tout. Ce ne sera jamais le cas, sauf en cas de rachat de Nintendo. par une autre boîte le jour où Nintendo se fait racheter. Peut-être on peut imaginer ça, mais avec la direction actuelle de Nintendo, la stratégie actuelle de Nintendo, absolument hors de question de voir des licences Nintendo arriver sur d'autres plateformes que la console de Nintendo. Ne serait-ce que, d'ailleurs, avant le Xbox et le PlayStation, tu pourrais imaginer la sortie de jeux Nintendo sur PC, et ça aussi c'est hors de question, alors que Xbox et PlayStation sortent leurs jeux sur PC. Ils sortent leurs jeux sur Steam notamment. Ça c'est hors de question pour Nintendo de sortir leurs jeux. Mais on peut avoir des jeux, on peut voir des jeux Nintendo sur PC. Je ne serais pas capable de commenter ce commentaire, mais apparemment Wendigo l'affirme. Voilà, je n'en dirai pas plus. Du coup, pour revenir au sujet, le Royaume-Uni a écarté le risque sur les consoles de jeux. Ils estiment que même si Microsoft prend le contrôle de Call of Duty, ça n'a pas posé de problème pour PlayStation parce qu'ils ont tellement d'avance. Ils ont tellement d'avance chez PlayStation sur le marché des consoles que honnêtement ça ne va rien changer. Le Royaume-Uni, ils ont écarté complètement le truc, et du coup ça fait grincer des dents chez Sony, puisque Sony vraiment panique depuis plusieurs mois sur le fait que Call of Duty pourrait ne pas fonctionner aussi bien sur PlayStation à l'avenir parce qu'il serait possédé par Xbox. Il y a cette réponse un peu lunaire où en gros ils expliquent vraiment que c'est irrationnel déjà le revirement du Royaume-Uni sur ce sujet, et que je sais pas si on a la réponse, je sais plus où était le... Mais en gros ils disent que si vraiment demain Call of Duty appartient à Microsoft et que Call of Duty, il y a un patch qui fonctionne moins bien sur PlayStation, ce serait une sorte de condamnation directe pour PlayStation qui coulerait directement après. Enfin vraiment, Sony a des mots très apocalyptiques concernant son avenir si Call of Duty passe chez Microsoft, ce qui est un peu ridicule, on va pas se le cacher. C'est aussi ridicule que Microsoft qui affirme partout qu'ils n'ont absolument aucun intérêt à rendre Call of Duty exclusif à leur plateforme. Évidemment que si, ils auraient un intérêt, ça permettrait d'augmenter les ventes de Xbox, donc dire qu'ils n'ont absolument aucun intérêt, c'est faux. Dire qu'ils ne vont pas le faire, ça, c'est beaucoup plus crédible, puisque effectivement, Call of Duty, ça représente plein de ventes sur d'autres plateformes, et que la plateforme où Call of Duty se vend le mieux, c'est sur PlayStation, donc ils ont tout intérêt à continuer les ventes sur PlayStation. Mais jurer partout qu'ils n'ont absolument aucun intérêt à le rendre exclusif, c'est un peu aller trop loin. Encore plus stupide que ils sont en train de sortir des jeux du rachat de Bethesda ou qui sont devenus exclusifs, par exemple Starfield qui sort à la fin de l'année, je crois, et surtout Redfall qui sort dans un mois. Les deux prochains jeux de Bethesda sont des exclusivités Xbox, donc ils sortent que sur les consoles Xbox et sur PC et dans le cloud, et ils sortent absolument pas sur PlayStation ni sur Switch. Donc crier partout, on n'a aucune raison de rendre les jeux exclusifs, c'est ridicule de la part de Microsoft. De l'autre côté, de la part de Sony, qui a toujours été leader du marché des consoles, qui a jamais terminé une génération sans être premier en termes de vente de consoles, ou deuxième au pire, parler de condamnation directe si Call of Duty devenait sous la coupelle de Microsoft, c'est complètement... C'est tout aussi grotesque, la surenchère de la panique, qu'on va dire. Évidemment que, par contre, ça, financièrement, ça va être un petit coup, parce que... Alors, Call of Duty représente quelle part de vente sur PlayStation ? Je n'ai plus les chiffres en tête, mais ça reprend une part importante, notamment... c'est super important dans l'écosystème PlayStation, parce que les gens achètent une PlayStation beaucoup pour jouer à Call of Duty. Des fois, ils vont acheter d'autres jeux avec, à côté... les gens qui jouent à Call of Duty, ils vont acheter des DLC, ils vont acheter du contenu annexe qui va être payé sur le PlayStation Store, sur duquel PlayStation va obtenir 30% de commission. Il y a aussi le fait que pour jouer en ligne à Call of Duty, il faut être abonné au PlayStation Plus, donc du coup tu payes aussi ton abonnement directement à Sony. Donc tout ça, c'est un cercle vertueux qui fonctionne très bien pour PlayStation. Ils gagnent énormément de revenus venant de Call of Duty, de Fortnite et compagnie. Et c'est ce qui leur permet notamment de financer le développement de leurs jeux exclus solo AAA type God of War, Forza... Parce qu'en fait, j'ai pensé à Horizon, et du coup, j'ai voulu dire Forza Horizon. Donc Horizon, God of War, etc., The Last of Us et compagnie, je ne vous refais pas tout le catalogue PlayStation, mais tout ça est financé notamment par les ventes de consoles, par les ventes de jeux, et par les ventes de jeux tiers aussi. C'est une sorte de cercle vertueux qu'a trouvé Sony, et ils ont peur que si Call of Duty se vend moins bien, et enfin, en vrai la peur c'est surtout si demain Call of Duty et chaque épisode sort sur le Game Pass Day One, bah, c'est un peu plus compliqué de se motiver à aller payer 80€ pour ton Call of Duty annuel sur PlayStation s'il tourne tout aussi bien sur la console concurrente où il coûte, enfin il est inclus dans l'abonnement qui coûte 10€ par mois quoi. Voilà, c'est un peu plus difficile. Enfin, vous rendez bien compte quand même qu'un abonnement à 10€ par mois d'un côté et un jeu à 80€ de l'autre, ça vous paye 8 mois d'abonnement quoi. 8 mois d'abonnement, c'est quasiment la distance qu'il y a entre un épisode de Call of Duty et l'épisode suivant. Et sauf que l'abonnement au Game Pass, il vous donne pas que Call of Duty, il vous donne tous les autres jeux à côté. Donc vraiment, j'ai envie de dire, les calculs sont vite faits, quoi. Et j'ai envie de dire que pour PlayStation, les calculs sont pas bons. Donc c'est normal. Enfin, après, Sony est dans son rôle d'essayer de faire tout pour bloquer leur achat. Si la direction de Sony ne faisait pas autant pour bloquer leur achat, leurs actionnaires pourraient porter plainte et pourraient se retourner contre Sony parce qu'ils font pas le nécessaire pour protéger les intérêts de la boîte. Donc c'est même normal. Enfin, c'est vraiment normal. Bon, après, ils vont vraiment très très loin dans leur agression, on va dire, dans leur attaque contre Microsoft et contre Activision, ça va un peu loin, mais ils sont quand même dans leur rôle. Cela dit, malgré les ouin-ouin de Sony, là je pense pas que ça changera grand chose. Quoi qu'il arrive, il y a un truc qui a quand même apparu clairement là pendant ces dernières semaines, c'est que ce soit en Europe ou au Royaume-Uni, et a priori aussi en Chine, les arguments de Sony ont pas fait mouche, et en fait maintenant la seule inquiétude de tout le monde en termes d'autorité, c'est vraiment le cloud gaming. Et c'est là que tout va se jouer. Je vous rappelle que du coup, du côté du Royaume-Uni, la décision finale, elle est attendue quand même pour ce mois-ci. Donc là, dans 2-3 semaines, normalement, on devrait avoir la réponse définitive sur ce projet de rachat de la part du Royaume-Uni. Et il y a moyen que ce soit validé. Ça prend quand même plus le chemin de la validation de la part du Royaume-Uni et de l'Union Européenne. Et si la Chine, le Royaume-Uni et l'Union Européenne valident le rachat, il y a des chances quand même que le rachat passe. Je vous rappelle qu'il est pour l'instant seulement bloqué ou en tout cas en procès aux États-Unis, puisque la FTC souhaite faire bloquer le rachat. À votre avis, une fois que tous les joueurs Xbox PC seront complètement accros dépendants au Game Pass, jusqu'à combien Microsoft va augmenter les prix? C'est la très bonne question. Il y a des chances déjà que dès le jour où le rachat d'Activision Blizzard est confirmé et qu'ils rajoutent tous les jeux Call of Duty et compagnie et Diablo et compagnie dans le Game Pass, déjà il y a des chances qu'ils prennent un petit coup d'augmentation à mon avis, s'ils n'augmentent pas avant. Et jusqu'à combien ça pourrait monter? Moi honnêtement, je sais pas jusqu'où il serait capable de monter, mais je vois un monde où le truc coûte 20€ par mois et encore des gens qui en sont satisfaits parce qu'ils ont un tel catalogue que c'est justifié, que après tout pourquoi pas quoi. Mais pour l'instant on en est loin. Il y a beaucoup de joueurs qui aiment bien encore jouer en local ou en acheter leur jeu. Et puis on est loin encore de. En fait, il faut vraiment que Microsoft arrive à sortir des jeux de façon régulière et de qualité suffisante, on va dire, pour intégrer ce genre de rachat, à mon avis. Voilà. Ce genre d'augmentation de prix. Mais je vous rappelle qu'il y a une astuce, j'en ai parlé récemment avec un pote. Il y a une astuce pour. Est-ce que je peux la retrouver rapidement? Okay, j'ai fait une photographe au site, au nom du site. Personne ne regarde, d'accord? Personne n'en parle, personne ne commente, personne ne le dit nulle part ailleurs. On fait comme si on n'avait pas vu que j'avais fait une faute. Je fais une faute de frappe. Donc il y a une astuce pour s'abonner pour pour autant de temps qu'on veut, jusqu'à 3 ans, directement au Game Pass. Et l'intérêt de s'abonner au Game Pass pour 3 ans, c'est aussi que du coup vous allez pouvoir ne pas subir les augmentations de prix. Si vous êtes abonné là au Xbox Game Pass jusqu'en 2026, si Microsoft augmente les prix entre maintenant et 2026, vous avez quand même le droit au Game Pass et ça va rien changer pour vous, ils vont pas vous raccourcir votre abonnement ou quoi, donc ça peut être aussi un avantage de cette astuce. Je vous rappelle que ça permet surtout de payer beaucoup moins cher l'abonnement, puisqu'au lieu de payer 13€ par mois, vous payez quelque chose comme 5€ par mois environ. Sauf que vous payez tout d'un coup, donc ça veut dire j'ai payé 180€ pour 3 ans. Je peux vous filer l'astuce tout à fait. J'ai payé 180€ pour 3 ans, ce qui ramène à. Il y en a qui peuvent le faire pour moins cher, je ne commenterai pas sur ça, mais officiellement, en passant par des circuits officiels et des vrais prix des choses, etc., Tu en as pour 180 euros, donc c'est 60 euros x 3, pour 3 ans d'abonnement. La seule condition, et je vais insister dessus, c'est de ne pas être abonné au Xbox Game Pass Ultimate. Il ne faut pas avoir d'abonnement en cours, sinon vous allez perdre de l'argent. Faut vraiment pas avoir d'abonnement en cours, donc faut soit que votre compte n'ait aucun abonnement, soit avoir seulement un abonnement au Live Gold, au Game Pass classique, au PC Game Pass, mais absolument pas au Game Pass Ultimate. Si vous n'avez pas d'abonnement, c'est bon. Si vous avez un abonnement, bah, faut résilier et attendre que votre abonnement expire complètement et être sûr que vous n'avez plus d'abonnement actif. Et à ce moment-là, vous pouvez utiliser l'astuce. C'est de souscrire au Xbox Live Gold pour 1 à 3 ans. Une fois que vous avez tout votre Xbox Live Gold enregistré pour 3 ans, par exemple, vous vous inscrivez au Game Pass Ultimate et Microsoft va convertir les 3 ans de Live Gold en 3 ans de Game Pass Ultimate. Or, le Live Gold coûte beaucoup moins cher. C'est une petite, petite offre de conversion que fait Microsoft pour le moment. Pour le moment, ils le font. Ils risquent du jour au lendemain de l'arrêter. Mais pour l'instant, elle est toujours valide. On met à jour régulièrement le papier. Dans les commentaires, les gens régulièrement disent que c'est toujours valide. Et dès que ce sera plus valide, on préviendra, évidemment. Mais pour l'instant, ça marche toujours. Et ça permet de s'abonner. Alors, ça demande de sortir de l'argent d'un coup et d'être un peu confiant qu'on va jouer au Game Pass sur les 3 ans à venir. Mais 5 euros par mois pour le Game Pass Ultimate, c'est pas grand-chose. Et quand on voit les jeux qui sortent dedans, c'est quand même assez vite rentabilisé. Donc sur ça, moi en tout cas je le recommande assez chaudement, sans trop sourciller. Et du coup, juste comme je disais, si vous vous abonnez maintenant et que vous êtes abonné pour les 3 ans à venir, même si ils augmentent le prix mensuel, vous êtes abonné pour 3 ans, donc l'augmentation de prix, vous la subirez pas avant 3 ans, quoi. C'est carré. On économise donc près de... vous allez payer 60 euros par an au lieu de 156 euros, donc on économise près de 100 euros par an quand même sur cette astuce. Hein. C'est pas mal, n'est-ce pas? Voilà. C'est pas un live... C'est pas non plus un live sponsor ou un live... je vous dis ça, c'est mon article. À l'époque, c'est moi qui ai un peu débusqué le truc en France. Et depuis, je le partage autour de moi, car pourquoi pas... Pourquoi payer Microsoft ira encore très bien, même si on s'abonne moins cher à leur abonnement. Puis ça va dans leur sens, hein, une fois qu'on est abonné, on a moins envie de partir. Hein, donc évidemment qu'ils sont contents de laisser ce truc. D'ailleurs, c'est une astuce qui est pas forcément ultra connue, mais qui a déjà été mise en avant une fois par Microsoft sur leur blog officiel. Donc c'est pas non plus comme si c'était genre une sorte de truc illégal ou quoi. C'est parfaitement maîtrisé de la part de Microsoft. C'est juste moins mis en avant aujourd'hui. Et donc... Donc nous, on le fait à leur place de le mettre en avant. Le problème du cloud, c'est aussi la conservation des jeux pour l'histoire du jeu vidéo. On a même ce problème avec le dématérialisé. Le Street Fighter V de juin 2022, avec son équilibrage, n'existe plus, remplacé par une mise à jour. Tout ça parce qu'il n'est pas vendu au format physique. Ouais, moi, ça me fait penser aussi à Overwatch, par exemple, auquel je joue beaucoup. Et Overwatch, des fois, j'aimerais bien reconnaître un peu, revoir ce que donnerait le Overwatch de... Du tout premier lancement avec le nombre de héros de l'époque, les maps de l'époque et tout, et voir comment se comporteraient les joueurs, voir ce que ça donnerait, quoi. Est-ce que le jeu serait cassé en l'espace de quelques secondes, c'est possible, mais voilà, je serais curieux de voir ce que ça donnerait. Et c'est un peu le lot des jeux services. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Il y a un débat qui serait à avoir, un sujet qui serait à avoir sur la conservation du jeu vidéo. C'est encore un truc qui est trop mis de côté, notamment par les autorités, malheureusement. Alors que c'est un sujet super important. On entend encore trop souvent que des éditeurs ou des développeurs ont perdu le code source de certains jeux qui ont fait l'histoire du jeu vidéo. Heureusement qu'il y a quand même des efforts de fait sur les remasters et les remakes pour des fois remettre au goût du jour aussi, pour essayer de refaire découvrir des jeux. Mais bon, ça, c'est pas parfait. Des fois, quand il n'y a pas le code source de base, par exemple, c'est pas parfait. Tiens, récemment, je me suis acheté... je découvre Diablo 2, je ne suis pas grand amateur de Diablo, donc j'ai juste joué à la bêta de Diablo 4. Et il y avait Diablo 2 qui est dans... Le remaster de Diablo 2 qui est en promo. Et il y a un bouton dans le remaster pour pouvoir passer au graphisme d'époque. C'est... Ouh là là. Comme on n'a pas connu, c'est bon. On est content quand même de pouvoir goûter au remaster. Mais oui, il y a un truc en plus, c'est assez propre aux jeux vidéo. le côté de l'archivage et de la pérennisation. Les textures de Final Fantasy 7, 8, 9, l'éditeur n'avait pas gardé les dessins d'origine des décors. Oui, voilà. Non, mais il y a pas mal. En plus, je crois que c'est souvent des développeurs japonais. Je crois que c'est assez connu que le code source des premiers Silent Hill a été perdu. C'est pour ça que les remasters de Silent Hill 2 et 3 sont assez ignobles parce qu'ils n'avaient plus accès au code du jeu, je crois. Enfin bref, c'est toujours un peu compliqué ces histoires-là. Et c'est assez malheureux parce qu'on parle quand même de jeux qui sont vraiment très importants dans l'histoire du jeu vidéo. Les Final Fantasy 7 et 8 et 9, c'est quand même un peu des bangers. C'est chèvre, comme on dit maintenant sur Fandroid. Et pareil pour Silent Hill. Ça paraît incroyable, et en même temps, est-ce que c'est si incroyable que ça? Moi, j'aime bien des fois remettre un peu dans l'humain, un peu dans... En fait, on visualise des grosses boîtes et tout, mais il faut se repasser, faut un peu repasser cette propagande du Game Pass. Faut repasser un peu dans le contexte de l'époque aussi. T'es en train de développer un jeu. Déjà, l'industrie, elle était encore relativement récente. Et t'es en train de développer ton jeu. Et toi, ta priorité, c'est juste de sortir le jeu et de le commercialiser. Et tu t'imagines pas que 20 ans, 30 ans, 40 ans après, ton jeu va tellement être un chef-d'œuvre que les gens vont continuer à en parler. Et que t'en auras besoin dans 40 ans, et que tu voudras le ressortir, le refaire, le retravailler, etc. Ça me fait penser aussi au fait que, par exemple, une grande différence historique entre le jeu vidéo et le logiciel informatique, c'est que les logiciels informatiques sont développés avec l'idée de pouvoir les mettre à jour et depuis longtemps, et d'avoir une sorte de base de code qui permette de pouvoir retravailler dessus, décocher des bugs, etc. Là où, quitte à perdre des performances, là où les jeux vidéo ont longtemps été optimisés pour, quitte à hacker un peu des choses, pour maximiser les performances, être le plus optimisé possible, etc. Et donc, pas forcément avoir du code qui soit lisible, qui soit facilement retravaillable, qu'on puisse facilement mettre à jour, et ce genre de choses. Et c'est une différence fondamentale entre les logiciels classiques et les jeux vidéo. J'imagine que c'est moins vrai aujourd'hui à l'époque des jeux services, parce que justement, faut prévoir ton jeu pour que tu puisses travailler dessus après. Donc j'imagine que ça a dû être un peu corrigé. Mais il y a encore 10-15 ans, c'était assez le cas. Et c'était assez connu, quoi. Ça permettait d'optimiser les performances, mais le code était moins lisible. Et Legacy of Kain, oui, c'est incroyable. Ça, par contre, j'ai bien connu. Et je rêve d'un remake de Legacy of Kain, notamment avec les graphismes de Diablo 4. Diablo 4 m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup rappelé Legacy of Kain. Et je rêverais d'un remake de Legacy of Kain. Voilà. Et oui, le jeu vidéo, maintenant, c'est devenu une industrie très importante. Et donc, c'est des sujets de culture dont il faudrait que l'on s'empare collectivement. Voilà, il est 10h59. J'avais dit que le stream, c'était entre 9h30 et 11h. Donc, il va être temps de conclure, Cassim, et d'arrêter de parler. Et de rappeler une dernière fois qu'on fait une matinale entre le lundi et le vendredi de 9h30 à 11h pour vous parler de l'actualité tech. On parle aussi de tout un tas d'autres choses. Comme vous avez pu le voir, on n'hésite pas à faire des digressions quand le chat est bien animé et que vous vous posez des questions, il n'y a pas de problème pour y répondre. On a aussi une émission maintenant qui s'appelle Unlock le jeudi après-midi à partir de 17h. On a aussi un site fandroid.com, on a des vidéos sur YouTube, on a des vidéos sur TikTok, on a des tweets sur Twitter, même si en ce moment Twitter nous embête parce que Elon Musk il a coupé les API et qu'on a plus de mal à faire des tweets, mais sinon il y a Twitter. On a Facebook, etc. Bref, suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. Et merci encore pour votre présence sur ce live. Merci pour les nombreuses personnes qui se sont inscrites. Merci encore pour le raid de Naotech. Ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, on va faire un raid. On va ramener ça. Tac. Et je vais. Qui est-ce que vous allez aller voir? Eh bien, vous allez aller voir Canard PC. Ils viennent de démarrer leur live, c'est parfait. On fait un enchaînement Naotech into Frandroid into Canard PC. Alors attendez, je regarde rapidement. Est-ce que je vous tiens en haleine pendant quelques secondes le temps que Canard PC arrive, ou est-ce que je vous laisse sur la musique d'attente de Canard PC? Je ne sais pas. En tout cas, je vais vous envoyer un raid. Et en plus, ils vont parler Windows, ils vont parler Twitter, ils vont parler Amazon et Netflix, ils vont parler de Utip. Je vous invite à rester. Canard PC, c'est la famille, c'est les potes. C'est pas la famille parce que c'est pas le même groupe, mais c'est Canard PC, quoi. C'est trop cool. Donc, je vous invite à rester pour le raid et à dire bonjour de notre part. Et voilà. Et représente. Frandroid représente dans le chat, ok? Je vous fais confiance. Mais Canard PC, voilà, magazine de jeux vidéo et d'informatique, de hardware notamment, qui a aussi une très bonne chaîne Twitch. Voilà. Et je vous envoie en raid. Et moi, je vous dis une dernière fois, merci encore pour le chat. Oui, Canard PC, normal. Ils ont l'art du jeu de mots. Hein, c'est volontaire. Hein, voilà, le nom est volontaire. Mais un canard, c'est aussi un journal, donc c'est pour ça que le nom est génial. Bref, je vais arrêter de fanboyer et je vais vous laisser avec le raid. Et moi, je vous dis un bon week-end aussi, d'ailleurs. Bonne journée et bon week-end. Et on se retrouve, alors du coup, on se retrouvera probablement pas lundi en live puisque c'est férié. On se retrouvera à partir de mardi. Je ne sais pas. Ce sera moi, je pense. Ce sera moi. Donc, à mardi, les gens. Et après, vous aurez un live aussi avec d'autres journalistes à partir de mercredi, jeudi et vendredi. Mais on se retrouve mardi. Au revoir. Et vous dites bonjour à Canard PC. Vous restez pour le raid. Merci. Ciao, ciao. Des bisous, tout ça, tout ça.
Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.